grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous présenter en ce dimanche 2 mars 2014, Jean-Martin Mkonkole Kibonge Muki. Il est en politique congolais, député honoraire et secrétaire général du parti politique Front des démocrates congolais pour le développement, FDCD en sigle. Martin Mkonkole, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour madame, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de Martin Mkonkole. On va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivront en ce moment. On va parler de votre enfance, de votre parcours politique. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la politique? C'est tout à l'heure dans cet entretien, mais commençons par une petite biographie de votre personne. Vous êtes né à Cabinda un certain 15 avril 1962.
C'est ça.
Et c'est là où vous avez passé, vous avez grandi?
Bon, j'ai pas grandi là-bas, mais je suis né à Cabinda, mais j'ai grandi ailleurs.
Ailleurs, c'est-à-dire dans quelle province ou en dehors de Cabinda?
Oui, non, pas en dehors de Cabinda comme province, mais en dehors de Cabinda comme territoire. Mais j'ai grandi dans le district de Cabinda, j'ai grandi à Mweneditu, j'ai grandi à Luputa, j'ai grandi l'enfance, j'ai grandi aussi à Kolwezi, parce que c'est là où j'ai passé mon enfance. Après la naissance, je n'avais pas pu bénéficier de la grâce de vivre avec ma mère. Ma mère est décédée. Quand elle est décédée, j'ai été prise en charge par mes grandes sœurs. Une de mes grandes sœurs était la femme à son temps là d'un administrateur du territoire. Et j'ai été l'objet des déplacements par rapport aux différents milliers que les beaux-frères devraient, qui devenaient mon parent qui m'avait adopté, mon tuteur devrait se promener. C'est comme ça qu'il était tantôt à un château du territoire à Mweneditu, tantôt à Mulundu, à Kanitina, à Kandakanda, à Luputa.
Et comme ça, vous avez sillonné plusieurs territoires, villes de la République, oui, ou de la province du Kasaï Oriental.
Oui, oui, j'ai eu ce privilège-là de visiter plusieurs territoires du Kasaï Oriental. Et comme les petits frères de mon père étaient à Kolwezi, j'étais obligé de passer aussi et mon enfance et mes vacances à Kolwezi. Chaque fois que j'étais en vacances, j'allais passer en famille à Kolwezi chez mon papa Leki, comme on l'appelle.
Alors, vous avez obtenu, vous avez un certificat d'études, de fin d'études primaires, de l'école primaire catholique Tchamala à Mweneditu.
Oui, c'est là où j'ai fait l'école primaire. J'ai même commencé aussi le cycle d'orientation et même les humanités. C'est à Mweneditu que j'ai obtenu mon certificat à l'école catholique à Tchamala. De là, je suis allé au collège Bondoï, là où j'ai fait le cycle d'orientation et j'ai commencé aussi les cycles d'orientation, après les cycles d'orientation, les cycles normal, secondaire à Mweneditu, mais je suis allé terminer à Lubumbashi.
À Lubumbashi, en pédagogie?
Oui, je suis pédagogue de formation.
Vous êtes resté à Lubumbashi pour poursuivre vos études supérieures et universitaires?
Oui, c'est là où j'ai passé presque tout mon temps. Il faut aussi signaler que mon père, c'était un ancien jécaminard. C'est comme ça que toute ma vie, j'ai passé à Lubumbashi. Et après l'obtention de mon diplôme d'État, j'ai été inscrit à l'université de Lubumbashi, là où j'ai fait mes 5 ans, j'ai terminé. Après mes études supérieures, je me suis retrouvé à Kinshasa.
Vous avez une licence en sciences politiques et administratives?
Oui, je suis licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. J'ai terminé en 1986 à l'INILU.
Alors, vous avez choisi cette option parce que vous vous disiez, dans l'avenir, je ferai la politique. C'était une façon de vous préparer?
Bon, pas tellement, mais j'avais, dès l'enfance, j'ai pensé devenir prêtre. Donc, j'avais ce goût-là de me retrouver dans la soutane blanche, de pouvoir servir, de pouvoir être au service des autres. Mais je n'ai pas eu la chance. Pourquoi? Parce que...
Qu'est-ce qui vous a détourné de cette vocation?
Bon, je crois que c'est la position familiale. Je suis le cadet d'une famille de 6 enfants et je suis le 2e garçon de la famille. Mes grandes sœurs, après la mort de ma mère, mes grandes sœurs ne voulaient pas que je puisse devenir prêtre. Quand bien même dans ma famille, nous avons un évêque, le grand-père, le petit frère du papa de maman, c'était le premier évêque de chez nous, Monseigneur Kanyama Mathieu. Alors j'avais envie, partant de ce que on me parlait, partant de ce que ses grands-pères la faisaient, en tout cas j'avais envie de devenir prêtre. Alors je ne pouvais pas aller au grand séminaire. Des entretiens, on m'avait dit que je pouvais faire les études universitaires. Après, je pouvais aller faire une formation. C'est comme ça que j'avais envie. Je me disais, même si j'ai fait les Sciences Po, mais je finirai à la fin de mes études de solliciter pour que je devienne prêtre, parce que j'étais toujours dans, j'étais acolyte, j'étais chantre, j'étais vraiment impliqué dans les milieux catholiques.
Quand j'ai fini, la famille vous a découragé?
Oui, comme il fallait aussi tenir compte de la vie de la famille, j'acceptais ce que mes grandes sœurs pouvaient.
Malgré vous?
Oui, ce sont elles qui représentaient ma mère. Je considère mes grandes sœurs comme étant la couverture à l'oubli de ma maman. J'étais obligé, pas obligé, mais j'ai compris que c'était nécessaire que je suive aussi leur point de vue.
Mais est-ce que vous regrettez aujourd'hui de n'avoir pas suivi ce que votre cœur désirait?
Bon, je ne le regrette plus, parce que ce que j'ai pu découvrir aussi en faisant la politique, j'ai compris l'importance et la nécessité de Dieu dans la vie.
Et la ou place, ce que vous avez découvert dans le mariage?
Bon, ça ne m'a pas tellement changé, mais j'ai découvert ce qui est plus important. J'ai compris que Dieu, on peut le servir dans n'importe quelle situation, et même en étant marié. Et si vous êtes réellement respectueux de la parole divine, c'est bien de servir Dieu, et c'est bien aussi d'appliquer sa volonté.
Alors Martin Mukonkole, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre jeunesse?
Bon, durant ma jeunesse, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la manière dont mes grandes sœurs se sont comportées par rapport à moi. Je suis resté tellement touché et marqué par cet amour. Je peux vous dire qu'il a fallu attendre beaucoup d'années que je découvre que la grande sœur que j'ai considérée comme étant ma mère, ce n'était pas ma mère, c'était ma grande sœur. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai découvert une personne dans la vie qui m'a porté d'un amour plus que l'amour d'une mère. Donc ma grande sœur, l'aînée de la famille, elle m'a beaucoup surpris dans ma vie. Et j'étais dans sa famille comme l'enfant de la famille. J'ai pu le découvrir après. C'est ce qui est resté dans moi comme un grand et un bon souvenir. J'ai découvert qu'elle était ma grande sœur que quand j'ai commencé les études universitaires.
Ah bon? Donc vous étiez déjà grand?
Oui, oui.
Et c'est elle-même qui vous l'a dit ou...
Non, finalement j'étais quand même obligé parce que mon père était là. Je ne vivais pas avec mon père. Mais je vivais chez ma grande sœur comme si c'était chez ma mère, avec un papa, notre beau-frère. Vraiment, j'étais l'enfant de mon beau-frère. Dans ma tête, mon père était notre grand-père. Mais c'est par après que j'étais obligé quand même que je le sache. Et c'est important. C'est vraiment un grand souvenir pour moi. L'amour que les grandes sœurs ont à ma personne, c'est resté marqué dans ma vie.
J'espère qu'elles nous suivent en ce moment. Les grandes sœurs, elles sont au pays?
Oui, il y a des qui sont ici sur place à Kinshasa. Une est à Lubumbashi et l'autre est à Cabinda.
Alors en passant, on leur dit bonjour. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas, Martin Mukonkole? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
En tout cas, je n'aime pas l'isolement. Et je n'aime pas la médisance. Et je n'aime pas l'injustice. Et ça, ce sont des choses que je n'accepte pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas prendre, qui ne peut pas considérer quelqu'un dans la vie. Cette discrimination-là, ça me révolte souvent. La médisance, je n'aime pas. Cette injustice, je n'aime pas.
Mukonkole Kibonge Muki, c'est un nom songé. Oui. Ça a une signification particulière?
Oui. Mukonkole, c'est un jumeau.
Vous êtes jumeau?
Je ne suis pas jumeau.
Mais comment vous portez ce nom?
Voilà, on m'a donné le nom de Mukonkole par rapport à ma position. Et je suis le cadet de la famille. Ce n'était pas moi qui était censé être le cadet de cette famille-là, de mon père. On pensait que c'était ma grande sœur qui était la cadette. Et je suis arrivé plus de 8 ans.
Après.
Alors c'est comme ça qu'on me dira, non, ça c'est... Je suis un enfant exceptionnel et j'ai le droit de bénéficier d'un nom. Parce que moi, en venant dans la famille, j'étais le garçon que mon père venait d'avoir. On me disait que c'était le double. Donc moi, je suis le double des hommes que mon père venait d'avoir. C'est comme ça qu'on m'a donné le nom de Mukonkole.
Et donc Mukonkole, c'est un nom qu'on donne à des personnes assez particulières, à part les jumeaux?
En principe, le nom de Mukonkole, c'est le nom des jumeaux. Parce qu'il y a Mukonkole et Yangoi. Ce sont les deux. Bon, je n'ai pas compris pourquoi on avait souhaité me donner aussi ces noms, mais c'est par après qu'on me dira que j'ai m'a donné des noms.
Parce que vous êtes né 8 ans après votre grand-sœur.
Et on dira que je suis presque plus que les jumeaux, parce qu'avec ma venue, c'était une grande surprise. On m'appelle Mukonkole Tombole, donc le coq. Tombole, c'est dans ma langue, en Kisongé, mais... En français, ça s'appelle les coqs. C'est comme ça qu'on m'appelait Mukonkole. Moi, je suis les coqs. Donc, j'ai frappé à la porte, j'ai toqué et j'ai crié Cocorico. Et c'est comme ça qu'on m'appelle Mukonkole Tombole, Mukonkole Louika.
Alors, vous êtes marié, père de 8 enfants.
Oui.
Lui, il va avec vous à Kinshasa.
Oui, oui. Sauf qu'il y a un enfant qui n'est pas avec moi, qui est à l'extérieur. Mais sinon, les restes sont avec moi ici.
Votre plat préféré, Martin Mukonkole, qu'est-ce que vous aimez manger?
En tout cas, j'aime manger les foufous avec les pondous et les frettes.
J'aime les frettes. Le foufou de maïs.
Surtout. Les cacontes, comme on appelle.
Vous faites le sport, sportif?
J'aime le foot.
Vous avez joué au foot ou vous continuez à jouer au foot?
Non, je ne continue plus. Maintenant, je fais que la marche. Quand j'étais encore enfant, je m'entraînais, j'ai joué au foot. Maintenant, j'aime plus faire la marche.
Alors, on va parler de votre expérience professionnelle. Après vos études universitaires à l'université de Lubumbashi, vous avez enseigné d'abord.
Oui, j'ai commencé par l'enseignement et après mes études. Moi, j'ai toujours loué Dieu et j'ai toujours dit merci à mon Dieu parce que Dieu m'a fait une grâce. Et la grâce, c'est laquelle, au niveau des études, je n'ai pas connu de difficultés. J'ai étudié du début jusqu'à la fin au niveau de l'université. J'étais boursier et j'étais à l'internat. Donc, je ne connaissais pas moi des difficultés. Et Dieu m'a fait cette grâce que je suis passé d'une promotion à une autre. Je n'avais jamais repris et je suis sorti dans ces avantages. Une fois sorti de l'université, je n'ai pas aussi chômé. Directement, je suis arrivé ici à Kin. Je profite pour dire le professeur Vundoe qui m'avait connu comme étudiant quand lui était recteur à l'université de Lubumbashi, je suis arrivé ici, il m'a fait une recommandation. J'arrive au mois de juillet, au mois de septembre, je commence le travail. Donc je n'ai pas pu mettre. J'étais à la création de ce qu'on appelle Service National de la Documentation. J'ai été recommandé, j'ai commencé le travail. Ça n'a pas traîné. Un de mes anciens professeurs aussi de l'université de Lubumbashi m'a découvert. Il m'a pris aux presses universitaires. Et en attendant, j'aimais beaucoup donner cours. J'étais assistant dans les différents instituts supérieurs privés de la place. J'ai donné cours à l'ENF, j'ai donné cours à l'ISIPA, j'ai donné cours à beaucoup d'instituts supérieurs privés ici. J'ai donné cours au CEPROMAD. Voilà comment j'ai évolué. Après, je me suis retrouvé à la DGI. Donc,
l'enseignement à la DGI, comment c'est arrivé?
Bon, il faut aussi dire merci à d'autres personnes. Moi, je ne savais pas que je pouvais me retrouver. Je n'avais pas sollicité d'être à la DGI. Quand j'étais au presse universitaire, il y a un aîné à nous. Il faut dire merci. Il était à son temps la directeur à la DGI. Un autre était chef de division. Ils m'ont dit non, vous pouvez venir parce que vous devez travailler aussi à la DGI, malgré ce que vous faites, l'enseignement, ce n'est pas difficile, vous pouvez continuer avec l'enseignement, vous venez aussi à la DGI. Donc, je remercie ces aînés-là qui avaient trouvé utile pour moi pour que je me retrouve à la DGI. C'est comme ça que j'ai évolué aussi à la DGI.
À la DGI, vous faisiez quoi concrètement, exactement? Vous étiez dans quel service?
J'ai commencé par la recherche. J'ai été formé, je suis vérificateur polyvalent. Vérificateur polyvalent des impôts. Nous avions suivi une formation. Je suis un contrôleur des impôts. Et ça, c'est une formation que j'ai dû acquise. Après, j'ai évolué, j'ai géré aussi jusqu'à être chef de bureau. J'étais au recouvrement,
Est-ce que vous êtes sorti facilement, passé de l'enseignement à la DGI? La DGI, en s'exerçant les finances, faut avoir une certaine notion.
Non, il n'y a pas tellement. Par rapport à la formation universitaire, j'étais déjà apte à pouvoir exercer n'importe quel type de fonction parce qu'il n'y a pas un grand secret. La comptabilité que j'ai trouvée à la DGI, ce sont des matières que j'ai dû apprendre à l'université. Je n'ai pas eu tellement de la peine. C'est facile. J'ai commencé par la recherche. On nous a initié comment il faut faire une recherche, comment il faut faire une enquête. Après, nous sommes allés en formation. Nous avions suivi une formation des Andirs. Hein. Comment il faut contrôler un opérateur économique, comment il faut analyser un bilan, comment il faut découvrir tel ou tel mécanisme de fraude. Donc, nous avons été initiés et ça n'a pas pu prendre beaucoup de temps. C'est comme ça que nous nous sommes tellement adaptés au niveau de la DGI.
Radio Capi, grand témoin.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Martin Mokonkole Kibonge Muki. Il est en politique congolais, député honoraire et secrétaire général du parti politique Front des démocrates congolais pour le développement FDCD en sigle. Alors, après la DGI, vous vous êtes retrouvé comme administrateur à l'ONATRA.
Oui, j'ai été administrateur à l'ONATRA et membre du conseil d'administration.
Comment vous êtes arrivé à l'ONATRA?
Quand nous sommes arrivés à la DGI, nous avions compris par le souci de continuer à servir et d'être utile pour nos camarades. C'est comme ça que je me suis d'abord retrouvé à la DGI comme syndicaliste. J'ai été élu comme délégué syndical et j'ai occupé le poste de secrétaire de la délégation syndicale. Je n'étais là que pour servir mes camarades et mes collègues de la DGI. Et j'aimais aussi la politique parce qu'il faut reconnaître que je suis un ancien de l'IDPS et je l'étais depuis quand j'étais à l'université de Lubumbashi.
Et vous avez commencé donc la politique lorsque vous étiez encore étudiant?
Bien sûr, j'ai commencé la politique à l'université de Lubumbashi. Donc, l'entrée à l'université, j'étais membre de l'IDPS et j'ai dû diriger aussi la petite cellule de l'IDPS au niveau de l'université de Lubumbashi.
Vous n'avez pas fait partie de la JMPR?
Non, non. Mais ça, c'est une grâce pour moi. Je crois que cette étiquette de l'opposition, ça, ma protestation a commencé depuis l'enfance. Je n'aimais pas tellement trop de oui. J'étais, on m'appelait toujours contestataire. Je protestais toujours. Mais je crois que
c'est même lorsqu'il ne faut pas protester.
Non. Quand il y a de l'injustice, je vous ai dit que je n'aime pas la solitude, je n'aime pas l'isolement. Bon, dans ce sens-là, on trouve un certain, on vous oblige d'avoir des attitudes qui ne reflètent pas ce que pense votre cœur. C'est comme ça que moi, j'avais chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je devrais protester, je devrais faire savoir mon point de vue. Donc, je suis arrivé à être administrateur à l'ONATRA parce que de la DGI, la démocratisation des institutions, l'arrivée de l'AFDEL, nous étions parmi ceux qui étaient contents du départ de ce système dictatorial de Mobutu. Mais ça n'a pas pu traîner. À l'arrivée des amis qui étaient à l'extérieur, j'ai pu découvrir Roger Lumbal. Parce qu'il était arrivé avec Mouzé. En arrivant avec Mouzé, nous avions attendu, il y a des amis de Polo Kitana, et ont été nommés comme directeur général adjoint à la banque, à la BCA. Bon, Lumbala, à qui on avait promis aussi un poste, n'était pas venu. Avec certains amis, d'autres sont aujourd'hui en fonction, même dans les services. Nous nous sommes révoltés, nous avions dit non. Avec Mouzé, qui ne veut pas qu'il y ait l'ouverture, qu'il n'y ait pas aussi d'autres partis politiques, nous mettons en place un gouvernement fantoche. C'est que nous avons été les premiers, dans le régime de Mouzé, de sortir un gouvernement fantoche. La sortie était sortie au Grand Hôtel. Nous avions mis en place notre gouvernement parallèle.
Comme vous et qui?
Nous, les Roger Lumbala, beaucoup d'amis de Dr Kamba, de Kankou, Clément Kankou.
Un gouvernement fantoche, mais qui n'avait pas d'impact.
Non, mais nous avions dit que nous devrions faire sentir notre point de vue. Mouzé, en venant, il n'avait pas à nous imposer l'esprit d'un parti unique, parce que nous, on pensait qu'il venait pour que nous tous, nous les anciens de l'IDPS, qu'on s'associe à lui. Mais quand il avait refusé cette ouverture, nous nous sommes dit, bon, la bonne manière, nous ne voulons pas faire autre chose que prendre aussi une décision qui pourrait peut-être le pousser. Nous mettons en place un gouvernement parallèle, que nous avions appelé un gouvernement fantoche, avec la même configuration que le gouvernement de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous, notre rôle sera, chaque fois que nous devons parler, nous devons dire ce qu'ils ont dit, mais qu'ils n'ont pas pu faire. Et la sortie officielle a été faite au Grand Hôtel. Cette histoire-là, ça nous a causé du tort. Après, c'était la chasse aux sorciers. Lumbala, qui était notre premier ministre, parce qu'il faut raconter, c'était lui qui était notre chef.
Et vous étiez ministre de quoi?
De l'intérieur. Mm-hmm. Alors, on nous a pourchassés. Nous sommes allés nous cacher du côté Petro-Congo, à son temps, la machine à Petro-Congo. Et Lumbala est allé se cacher au centre Nganda. Finalement, nous sommes organisés pour qu'il puisse traverser. À ce moment-là, c'était déjà la vague de la petite contestation du RCD qui commençait. Alors nous avons tout fait, Lumbala est sorti, nous sommes débrouillés pour qu'il sorte, il est sorti, il est parti. Et nous sommes restés en contact, et les petites ambitions continuent déjà. Finalement, il est arrivé avec le RCD, il est entré au RCD, on n'était pas toujours d'accord, mais il faut reconnaître qu'à ce moment-là, on était déjà en contact avec Lumbala. Comme il était notre premier ministre, il est parti avec d'autres amis, les Dr Kamba qui sont rentrés en France, les Polo Kitana sont rentrés aussi en Belgique. Nous avions commencé à réfléchir, finalement, le RCDN est né.
Donc vous êtes parmi les cofondateurs du RCDN.
Oui, nous sommes les cofondateurs du RCDN. Et moi, j'étais, comme la loi à son temps la prévoyait, qu'il fallait 12 membres qui devraient créer un parti politique. Chaque membre par province, nous étions organisés dans ce sens. Moi, j'étais le représentant de la province du Kassai-Oriental, cofondateur du RCDN. Maintenant, lors du...
Le RCDN est né du RCD.
Oui, mais c'est une protestation. Nous sommes nés du RCD. Pourquoi? Parce que quand Lumbala avait constaté qu'à un certain moment, le RCD voulait avoir des tendances de la balkanisation de l'Est, on voulait déplacer les bornes qui séparent notre pays avec le Rwanda. Et lui, en son temps-là, il était dans les gouvernements du RCD du côté de l'Est. Il a protesté, il a estimé que ça ne pouvait pas se faire. Ça lui avait couru, à son temps-là, même une arrestation. Et il a été arrêté, je crois, 50 jours après. Il est arrivé à s'échapper. C'est en s'échappant qu'il créera le RCDN. Et nous avions encouragé cette initiative. Voilà comment nous étions devenus ensemble avec lui dans la lutte. Et quand nous sommes retrouvés maintenant lors des concertations, lors des négociations en Afrique du Sud, le dialogue de San City, nous étions invités comme entité. Le RCDN, et de là, il y a eu ce principe de partage des responsabilités. Le RCDN est arrivé parmi les entités, et nous devrions nous partager la gestion de la République des responsabilités. Nous, en tant que RCDN, c'est dans ce sens-là que j'ai eu...
C'est comme ça que vous avez été nommé administrateur.
J'ai été nommé administrateur à l'ONATRA pour les comptes du RCDN.
Uh-huh. Et là, vous êtes resté combien de temps la tête comme administrateur à l'ONATRA?
On a fait 2 ans et demi, donc je crois que ça a à peu près 3 ans. Uh-huh.
Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le RCDN?
Non,
vous
non,
avez quitté?
Oui, oui, nous avions quitté le RCDN.
Pourquoi?
Vous connaissez ce qui s'est passé lors de du mandat de 2006. Nous avons été arrêtés, nous avons fait la prison. Et à la sortie, pour des raisons de convenance personnelle, j'avais senti que moi, j'ai resté un peu dans ma position de l'opposition radicale. Et j'avais senti que les amis du RCDN avaient lâché. Pour eux, ils voulaient qu'il y ait une certaine négociation. Ils avaient déjà fait des avancées vers le pouvoir. Il y avait déjà ces contacts-là. Quand je suis sorti de la prison, avec tout ce que j'avais connu...
La prison, vous l'avez faite en 2010, non?
Oui, oui.
En 2010.
Oui, mais j'étais parce que les mandats que j'ai eu même à l'Assemblée, je l'ai eu comme député du RCDN.
Du RCDN.
Oui, oui, oui. Donc, le RCDN, c'est vraiment parmi les enfants que nous avons pu mettre au monde. Ça m'a fait de la peine à un certain moment de voir que le RCDN ne pouvait pas tenir compte par rapport à ce que nous avions comme philosophie, comme idéologie. Bon, en 2010, quand je suis sorti de la prison, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer avec les amis du RCDN par rapport à la vision qui avait changé, selon moi.
Vous avez décidé de créer votre parti politique.
Oui, oui. Nous avons décidé avec des amis de créer notre propre parti politique parce que la décision était de rentrer à l'IDPS. Parce que c'est là où je retrouve ma façon et ma philosophie et même mon fondement de combat. Mais on a quand même compris avec tout ce qu'on avait, des amis avaient estimé que je ne pouvais plus continuer à me considérer comme étant seul et faire valoir rien que mes positions à moi. Je vous ai dit que j'aime être toujours dans les groupes. Et avec les amis, ils ont estimé qu'on pouvait créer notre propre parti politique ensemble avec eux, en restant de l'opposition proche de l'IDPS.
On va revenir un peu en arrière. Pourquoi vous avez été arrêté en 2010?
J'ai toujours dit, je ne souhaite pas que moi-même je parle de cet événement-là. Est-ce que vous êtes... Les journalistes, il y a eu beaucoup de...
On a appris que c'était association de malfaiteurs.
J'étais dans les coups d'État, je voulais faire un coup d'État. Je m'associais avec les gens pour voler les véhicules, d'accumuler un peu de moyens pour déstabiliser les institutions. J'étais dans les coups de ce qui s'était passé au niveau des cabines de l'Angola avec les bus qui avaient été circuités par des malfaiteurs que moi j'entretenais avec comme projet instaurer un nouveau système de terrorisme afin de déstabiliser les institutions de la République. Je me suis seulement moqué de tout ce qui s'était passé. La réalité, elle était ailleurs, c'est-à-dire ma position gênait beaucoup de gens. Et au lieu d'aller peut-être raconter la vérité à son temps là au chef de l'État pour dire que ces messieurs-là, ce n'est qu'un opposant, il y a beaucoup qui sont allés pour peut-être leur positionnement dire non, ce type est en train de chercher votre départ. Jusque-là, je n'avais pas, même aujourd'hui, je n'ai pas encore les ambitions de devenir président de la République. Et je ne vois pas pourquoi
Mais vous n'êtes pas seul dans l'opposition qui combattait le régime en place. Pourquoi on va parler seulement de vous pour dire que vous voulez déstabiliser le régime?
Oui, mais je vous l'ai dit parce qu'ils savent. Je suis sûr qu'ils vont suivre cette émission. Il y a eu beaucoup de sollicitations. Ils m'ont demandé de changer de position. Ils ont demandé de traverser. Ils ont demandé, ils m'ont promis beaucoup de choses et je n'avais jamais accepté.
Vous n'avez pas cédé.
Je n'avais pas cédé. Et je connaissais aussi beaucoup de choses aussi. J'avais beaucoup de petits secrets de ce qui s'est passé. Et étant informé et n'ayant jamais changé de position, j'ai devenu un danger, j'ai devenu un témoin gênant.
Et à cause de cet emprisonnement, vous n'avez pas pu vous présenter aux élections de 2011?
Non, je suis sorti des jours avant la fin de l'enrôlement. Et l'enrôlement chez moi, dans mon territoire, était déjà terminé, mais je m'étais fait enrôler ici à Kinshasa et je suis allé. J'étais candidat en 2011. Vous n'avez qu'à poser la question, je crois, à la CENI. Si vous posez la question aujourd'hui à l'ancien président de la CENI, il vous dira... Qui sont ceux qui avaient été Elia Kabinda?
Vous êtes parmi ces gens-là? Malgré le fait que vous avez passé, je crois, 10 mois en prison.
Au lieu de 10 mois, j'ai fait 13 mois. J'étais condamné pour faire 10 mois en prison, mais j'ai fait 13 mois.
Vous n'avez pas battu campagne, rien du tout, mais vous étiez quand même élu.
Oui, je n'ai pas battu campagne, mais je suis arrivé, j'ai fait 2 semaines sur le terrain. Je me suis promené dans tous les villages de chez moi. Et je crois que les traces sont là jusqu'aujourd'hui.
Alors on va parler de votre parti politique, mais avant cela, comment vous passez vos moments de détente, Martin Mukonkole, comment vous vous occupez lorsque vous n'êtes pas plongé dans vos dossiers politiques?
En tout cas, à part mes réunions politiques que j'aime beaucoup, j'ai au moins 3 jours de la semaine que je consacre à la prière. Donc j'ai des jours que je ne préfère pas perturber facilement mon programme. J'ai le mercredi, j'ai le vendredi et j'ai le dimanche. Ce sont des jours que je consacre réellement les après-midi à des réflexions et je les consacre à mon Dieu. Mais le reste du temps, je m'étre avec des amis. J'aime beaucoup lire parce que je me dis que je ne connais pas encore. Il faut que je découvre encore beaucoup de choses.
Vous êtes aussi dans des associations. Vous êtes président de la communauté des jeunes Songye Balunda Lume, c'est ça?
Oui, ça c'est parmi les anciennes attributions que j'ai dit exercer, c'est-à-dire au niveau de mon territoire. Il y a une communauté qu'on appelle Belandé, et il y a des jeunes. À ce moment-là, j'étais encore jeune, j'étais le président des jeunes.
Ah, vous n'êtes plus là, vous avez quitté là?
Non, je ne suis plus parce que maintenant là, je suis dans la catégorie des aînés. Il y a les autres qui sont déjà là. Et les associations, je vous l'ai dit, je les aime bien. J'ai commencé par les syndicats, je suis dans les partis politiques, je suis aussi dans les associations parce que c'est là où je me retrouve avec les autres, c'est là où je trouve ma présence pour que je sois en mesure de servir aussi ma communauté.
Mm-hmm. Vous êtes toujours secrétaire général de l'association de Basongi et de Kinshasa, Basokid?
Basokid, bon, il y a eu un nouveau comité, donc je suis du comité sortant, je suis secrétaire général. J'étais secrétaire général de Basokid, qui est un orchestre connu ici sur place. Si vous avez besoin d'écouter la musique de Basongi, je crois qu'il faut passer par Basokid. C'est là où il y a aussi une bonne culture et c'est là où il y a aussi une bonne détente.
Voilà, en parlant de musique, qu'est-ce que vous aimez comme musique?
Ah, vraiment, à part la musique religieuse, j'aime la musique traditionnelle.
Traditionnelle, oui. Donc la musique songue, quoi?
En tout cas, j'aime vraiment la musique songue, j'aime la musique lande et j'aime aussi la musique chrétienne surtout.
Donc ça vous ferait plaisir si on vous proposait un folklore songue?
Bien sûr, ça me ferait un grand plaisir.
Alors on va demander à Willem Lungamba de nous balancer un folklore songé pour le plaisir de Martin Mukonkole. Je l'ai dit, il est en politique congolais, député honoraire et secrétaire général du parti politique Front des démocrates congolais pour le développement.
Cuando va por la vida limonye wetu na manga kumasonye makumi mwanda afalanga kumasa akumukwa kumasa sana ya loso na matela ayo bashami kumwa malala mabofule vore kende kekulu mkulu wabingi kikuni mbwa ndenge taka tukakula na mingi apono kumasonye Apono kuchofa, apono kutpao Banga na kukamana Sabanga na mungwa bilamba na manga Ogunu moche belongo
de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Le Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Martin Mukonkole Kibonge Muki, homme politique congolais, député honoraire et secrétaire général du Parti Front des Démocrates Congolais pour le Développement FDCD en sigle. Martin Mukonkole, avant la création de ce parti politique FDCD, vous étiez d'abord président de notre parti politique, je crois, Convergence Chrétienne.
Non, j'étais secrétaire général de la Convergence Chrétienne, c'est un parti politique de l'opposition aussi. Et les amis, quand je suis sorti de la prison et après tout ce qui s'est passé, ils ont estimé qu'on pouvait ensemble évoluer dans un parti politique. Je vous avais dit qu'après avoir quitté l'RCDN, j'avais l'ambition de rentrer à l'IDPS. Mais les amis avec qui on évolue ont estimé qu'on devrait faire un autre parti. En attendant, on nous a invités qu'on devrait faire partie de ces partis politiques de la Convergence Chrétienne. Nous sommes arrivés là. Et il faut reconnaître qu'à un certain moment, nous n'avons pas pu parler le même langage parce qu'on a senti que des tendances ne restaient pas dans la vraie opposition. Et comme je ne pouvais pas accepter être chauve-souris, comme je ne pouvais pas accepter être dans un parti politique qui se déclare de l'opposition, mais en dessous, on réfléchit comme ceux qui ne sont pas de l'opposition, et j'ai dit quitter avec tes amis pour dire ce n'est pas là notre place, c'est mieux que nous puissions avoir une structure qui est propre à nous et qui reste vraiment indépendante parce que vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'amis et vous ne pouvez pas avoir des fondateurs qui s'étiraient sur l'appartenance de leur parti politique à l'opposition, à la majorité. Et cet tiraillement-là ne pouvait pas nous permettre nous d'évoluer. C'est comme ça que nous avions pu démissionner. On a déposé notre démission en tant que secrétaire général. Nous sommes partis avec des amis.
Et donc, dans tous les partis politiques où vous êtes passés, les idées, vous ne partagez pas les mêmes, vous n'aviez pas les mêmes idées que ceux qui étaient à la tête de ces partis?
Non, je vous ai dit, depuis que je suis parti de l'IDPS, j'arrive au RCDN.
RCDN, vous avez quitté parce que vous n'étiez pas d'accord sur certains points.
Oui, vers la fin. C'est vraiment la fin. Nous n'avions pas pu parler le même langage avec le président Roger Lumbala.
Convergence chrétienne, même problème qui se pose.
Oui, Convergence chrétienne, il y a le fondateur du parti, il n'est pas politique. Il n'est pas politique, mais il a certains fondateurs. Confondateurs qui sont politiques, mais qui ne restent pas dans la logique telle que nous l'avions souhaité de rester de l'opposition. On ne peut pas être de l'opposition avec des mains. Si moi je me dis je suis de l'opposition, c'est parce que je ne partage pas le programme qui nous est présenté par ce gouvernement. J'estime que c'est un programme qui n'est pas réaliste par rapport à ma vision, par rapport à ce que je pense. Bon, quand vous avez des gens qui vous disent que ça c'est réaliste, je me dis à ce moment-là, on n'est plus de l'opposition, on ne peut pas continuer à faire de la figuration.
Et là, vous avez décidé carrément de.
Oui, oui, nous avions décidé
de créer votre parti politique.
Voilà. Mm-hmm. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes dans des coalitions, nous sommes dans des regroupements avec d'autres partis politiques de l'opposition. Mais notre propre parti politique, le FDCD, c'est un parti politique de l'opposition, communément appelé par les gens de mauvais goût radical, mais en principe, il n'y a que l'opposition politique dans notre pays. On ne peut pas avoir une opposition soi-disant républicaine ou soi-disant radicale. C'est l'opposition politique, c'est là où nous sommes.
Alors, que pensez-vous des gens qui disent qu'il n'existe pas d'opposition en RDC?
C'est leur droit de penser, mais il ne faut jamais arriver à étiqueter quelqu'un si vous n'avez pas... Nous avons dans notre pays les textes qui sont clairs. La Constitution, à son article 8, a défini les dispositions d'un parti politique, de l'institution d'abord de l'opposition politique. Et il y a une loi qui a même parlé des statuts de l'opposition politique. S'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'opposition politique, c'est là peut-être c'est par rapport aux gens qui se déclarent de l'opposition, mais leur comportement ne reflète pas réellement les gens de l'opposition.
Les opposants sont facilement corruptibles.
Bon, je crois que ce n'est pas tellement très mal, mais c'est un problème de personnalité, un problème de conviction. Il y a des gens qui pensent qu'il faut passer par l'opposition pour qu'on vous fasse les petits jets, qu'on vous fasse les appels des pieds, pour qu'on vous donne quelque chose, que vous partez. Malheur à eux, c'est leur point de vue. Mais nous estimons que nous, l'opposition politique dans notre pays existe. La preuve en est que Martin Mukonkole est là, je continue. Je n'ai jamais changé ma position par rapport. J'ai été opposant du gouvernement Kizenga, je suis resté opposant du gouvernement Mouzito, je continue à être opposant
jusqu'à
du gouvernement Matata, jusqu'à ce que l'alternance va venir bientôt. Et nous serons au pouvoir.
Mais de Kizenga, Mouzito, Matata, c'est l'alternance, non?
Non, c'est pas l'alternance, c'est la continuité. C'est la continuité de la majorité, c'est la continuité de la politique du chef de l'État. Or, nous ne sommes pas dans la logique de ces gouvernements-là, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous avons une alternance qui va venir d'ici là.
Et pour vous, alternance, il faut qu'il y ait, par exemple, un premier ministre de l'opposition ou il faut qu'on ait des nouveaux dirigeants?
Non, mais je crois que l'alternance n'est pas au niveau seulement du premier ministre, c'est au niveau des institutions de la République. Parce que l'accessibilité aux fonctions du chef de l'État ou du premier ministre dépend de l'organisation des élections qui doivent être crédibles, là où nous devons avoir un chef de l'État qui a une vision, qui a un projet de société pour le pays, qui a un projet de société qui reflète l'amour de notre pays. Mais nous avons estimé pour le moment que nous ne sommes pas dans les processus, nous ne sommes pas dans la logique de ces gouvernements actuels, parce que ces gouvernements, nous ne nous retrouvons pas dans son leadership, que nous considérons comme un leadership totalement absent. Nous avons notre façon de voir, et nous pensons que c'est cette alternance qui va venir avec les élections. Nous aurons à retrouver une autre majorité parlementaire de l'opposition, de ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, de ceux qui ont un souci pour servir notre population, et ce sont ces gens avec qui nous allons constituer la véritable alternance d'ici 2016. Ce n'est plus pour longtemps.
Est-ce que vous pensez que aujourd'hui ou demain, vous êtes aux affaires, vous qui vous dites de l'opposition, vous êtes aux affaires, vous pourriez changer quelque chose dans la gestion de la République?
La seule chose que nous allons commencer par instaurer, c'est le respect des textes de la République. La Constitution et les textes et les lois de la République. Nous allons respecter rien que les textes et vous verrez que les choses vont changer.
C'est vrai, les politiciens ils disent toujours ça, on va respecter, et après qu'ils sont au pouvoir, ils changent.
Bon, prenons rendez-vous pour que vous puissiez... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens vont vous dire que c'est les discours, mais on ne nous a jamais testé. Vous pouvez poser la question... Là où nous sommes passés, nous avons été la petite expérience à la DGI, poser la question quand nous avions été secrétaire de la délégation syndicale, qu'est-ce qui a été fait? Poser la question quand nous avons été à l'ONATRA, en tant qu'administrateur, qu'est-ce qui a été fait? Poser la question là où nous sommes passés, je crois que nous sommes quand même parmi des gens qui sympathisent le respect des textes, qui sympathisent un certain respect des engagements que nous allons prendre devant les gens.
Vous n'avez pas pris part aux concertations nationales?
Non, mais on ne pouvait pas prendre part aux concertations nationales parce que les concertations nationales ont été convoquées par une famille politique. Les concertations nationales, c'était une logique qui était en train de chercher à grandir, à arrondir la majorité parlementaire. Et c'était une invitation et ceux qui avaient estimé qu'ils pouvaient adhérer à cette majorité présidentielle ont accepté de répondre à cette invitation. Or, ce qui était important, c'était de savoir pourquoi les concertations. Est-ce qu'il fallait les concertations? Non. Or, il fallait les véritables dialogues parce que la situation du pays n'était pas bonne et n'est pas bonne. Or, ces négociations devraient se faire entre les partis. On ne peut pas faire des négociations avec des gens pour qui vous n'avez pas des points de vue divergents. On ne peut faire des négociations qu'avec des gens avec qui vous avez des points de vue divergents pour trouver un compromis.
Alors Martin Moukonkole, nous sommes à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. 2016, les prochaines élections, vous y croyez? Vous pensez qu'on va organiser des élections en 2016?
La vie, c'est un combat. Madame, je ne pouvais pas terminer sans pour autant dire que pour le moment, notre parti, c'est un parti politique de l'opposition, œuvrant dans un regroupement qu'on appelle la Coalition pour le vrai dialogue, et dans les grands regroupements...
Avec l'UNC et les autres partis.
Oui, l'UNC et autres. Et dans l'UNC et l'autre, il faut être sincère que la CVD, c'est une coalition de plus de 34 partis politiques, plus de 15 associations de personnalités avec comme autorité morale Vital Kamerhe. Et nous sommes dans un grand regroupement maintenant qui va sauver réellement la République démocratique du Congo qui s'appelle Sauvons la RDC, qui est un grand regroupement.
Ça fait beaucoup de plateformes quand même au sein de l'opposition.
Non, c'est ça la cohésion maintenant de l'opposition. Parce que vous m'aviez posé...
On l'espère.
Pour cette fois-ci, Sauvons la RDC, c'est la structure qui canalise les aspirations de l'opposition politique dans notre pays.
Ok, on va voir si c'est réellement ce que vous dites. Martin Moukonkole, un mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi.
Je reste toujours leur serviteur. J'ai toujours dit, pour moi, servir la population congolaise, c'est un devoir pour moi et une obligation. Et je souhaite, tel qu'ils aiment le Congo, nous aimons réellement le Congo, que notre population se prenne en charge, parce que s'il n'y a pas cette prise en charge, on continuera toujours à gémir et à pleurnicher, oh, nous ne voulons plus. Que 2016 soit une année de détermination et une année de l'expression réelle de la volonté de notre peuple.
Merci beaucoup Martin Moukonkole. Je rappelle à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et à travers le monde que Grand Témoin a reçu Jean-Martin Moukonkole Kibonge, homme politique congolais, député honoraire et secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement, FDCD. C'est un parti politique de l'opposition. Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en onde de micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Nous faisons un petit coucou à Christian Moulumba qui nous suit de l'autre côté de la baie vitrée. Bon dimanche chez vous et passez un excellent moment en compagnie du programme de Radio Okapi.